Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, c'est un immense joueur que l'on a la chance de recevoir avant le choc tout à l'heure des Bleus, face à la Suisse. L'ancien capitaine de l'équipe de France, Marius Trésor, il sera notre invité. Son regard sur cette équipe de France, donnée favorite, on en parlera évidemment avec lui. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Spécial régional ce soir, le coup d'arrêt du RN, la bataille de la droite pour 2022, on en débattra. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Et puis 19h20, grand débat ce soir sur nos retraites. Travailler plus, pourquoi pas jusqu'à 64 ans? Le gouvernement hésiterait à passer en force, alors faut-il s'y préparer? Est-ce qu'à l'avenir, travailler plus et plus longtemps va devenir inévitable, comme l'affirment certains? On en débattra donc ce soir très largement avec nos invités. D'abord le journal avec vous, Rémi Botsaron. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonjour à tous.
18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
On va pas partir trop confiant, mais en tout cas, on sera derrière eux, on va les pousser et ils vont faire le taf.
C'est parti pour le frisson des matchs à élimination directe pour les Bleus. La France face à la Suisse ce soir en 8e de finale de l'Euro de football. La France favorite, mais attention à des Suisses qui peuvent être déroutants, nous dira dans un instant Cyril de la Morinerie.
Et on prendra évidemment la direction de Genève où les supporters des deux camps vont vivre le match côte à côte ce soir.
Si les Bleus gagnent, ils joueront à Saint-Pétersbourg vendredi, mais la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, déconseille aux supporters de faire ce déplacement alors que la Russie est lourdement touchée par le variant Delta du Covid.
Un spectaculaire incendie à Londres cet après-midi, une explosion a été entendue. Nous retrouverons Anaïs Cordoba sur place.
La rencontre très attendue aujourd'hui dans le Nord entre Emmanuel Macron est l'un de ceux qui rêvent de le faire chuter dans un an. Xavier Bertrand, ils se sont parlé. Lionel Gougelot nous racontera.
Le Tour de France, évidemment, et la victoire au sprint du Belge Tim Merlier à Lorient. Mais surtout, énormément, on en parlera, de chute encore une fois.
La Bourse de Paris a terminé en forte baisse aujourd'hui. Moins 0,98% à 6558,02.
La météo, Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Vigilance ce soir. 11 départements en alerte aux orages.
Oui, du Massif central jusqu'au nord-est, les orages peuvent être encore très forts ce soir. Violent, accompagné de grêles et de rafales de vent. Demain sera une nouvelle journée très nuageuse et très humide. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La France face à la Suisse, deux voisins qui vont s'expliquer ce soir à l'autre bout de l'Europe, à Bucarest.
Oui, coup d'envoi dans trois petites heures maintenant pour ce 8e de finale de l'Euro de football.
Cyril de la Morinerie, vous êtes en Roumanie pour Europe 1. C'est oui. Un peu une nouvelle compétition qui commence pour les Bleus. Ils ont parfois donné l'impression de se chercher un peu pendant la phase de groupe. Cette fois, il va falloir qu'ils se trouvent.
Oui, quel est le vrai visage de cette équipe de France? Eh bien, la réponse, on l'aura sans doute ce soir. Des Bleus impressionnants face à l'Allemagne, décevants contre la Hongrie, irréguliers contre le Portugal. La France, on le sait, n'est pas parfaite. Elle a souffert de la chaleur. Une cascade de blessures est venue ternir cette première phase de l'Euro. Et preuve d'un certain tâtonnement, Didier Deschamps change encore de schéma tactique ce soir. Il devrait aligner une défense à 3. Alors, ça paraît comme ça anecdotique, mais cela démontre une certaine fébrilité. C'est pourquoi les supporters français que j'ai rencontré dans le centre de Bucarest, même face à la Suisse, reste prudent.
On va pas partir trop confiant, mais en tout cas, on sera derrière eux, on va les pousser et ils vont faire le taf.
Malheureusement, je vois bien un petit 1-0 moi pour la France. On va devoir les contourner, ça va prendre du temps. Voilà, tant que la France gagne, après, c'est le principal.
Alors, cela dit, rappelez-vous, les Bleus avaient véritablement lancé leur Coupe du Monde 2018 en huitième de finale, grâce à une victoire fondatrice contre l'Argentine. Eh bien, c'est tout le mal que l'on souhaite à cette équipe de France 2021, avec qui sait une nouvelle frappe de Benjamin Pavard ou un troisième but dans cet Euro de Karim Benzema. Des Bleus qui pourront compter sur un millier de supporters et tous ces fans roumains très francophiles ce soir.
Merci mon cher Cyril de la Morinerie. Vous dites combien ce soir?
Alors je dis une victoire de l'équipe de France 2-1. Il ne fait pas trop chaud, 28 degrés là au thermomètre, donc ça devrait aller nettement mieux pour les Français.
Et vous nous faites vivre évidemment ce match et cette victoire de Buzyn, bien sûr, à partir de 21h.
Avec Jean-François Pérez, on l'a entendu. Alors cette rencontre, elle sera évidemment suivie avec passion de l'autre côté de la frontière, en Suisse.
Et c'est là que vous vous trouvez, Simon Rubin. Vous êtes vraiment juste de l'autre côté de la frontière à Genève, une ville qui se prépare à vivre une sorte de match des supporters.
Oui, ça y est, l'ambiance monte, les terrasses se remplissent petit à petit. J'ai vu dans le centre-ville pas mal de drapeaux suisses au balcon, quelques drapeaux français aussi. Il faut dire que les Français, ils sont nombreux à venir ici à Genève pour travailler ou pour flâner. C'était le cas par exemple hier de Laurie que j'ai croisé. Il est un peu confiant, mais vraiment juste un peu.
Il y a une bonne compétition dans tous les cas entre la France et la Suisse, hein, au niveau des salaires. Donc là, au niveau de foot, vu qu'ils nous charrient, puisqu'ils ont un meilleur confort de vie que nous, là en France, on va les allumer là, avec le foot. On est meilleur qu'eux. Si à la première mi-temps, on commence à tabasser les Suisses, on viendra les charrier sur leur propre terrain.
Et côté Suisse, c'est un peu différent. Ça fait 29 ans qu'on n'a pas battu la France en match de foot. On comprendra donc la prudence des supporters de la Nati que j'ai croisé ici.
Chaque fois, la Suisse contre la France, c'est toujours c'est la France qui gagne. Normalement, cette fois, j'espère qu'ils vont réussir de faire quelque chose quand même. J'espère.
C'est quand même quelque chose, je pense, que tout le monde attend quand même, parce que c'est quand même la rivalité, ça c'est sûr.
La Suisse a une chance de gagner. Les Suisses, ils sont motivés. Ils sont motivés, clairement. Donc ils ont envie de gagner, ils vont donner ce qu'ils ont.
Voilà, on y croit quand même, d'autant qu'ici, tout le monde a vu hier la République tchèque battre les Pays-Bas. Tout le monde aussi a en mémoire l'Autriche qui avait bien résisté contre l'Italie. Et on se dit que les petites nations ont leur mot à dire dans cet Euro.
Merci Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 à Genève.
Alors les supporters des Bleus qui célébreront peut-être une victoire ce soir, on l'espère en tout cas, mais qui pourraient bien être privés du quart de finale de l'équipe de France.
Et oui, si les hommes de Didier Deschamps se qualifient, ils joueront vendredi à Saint-Pétersbourg, une ville submergée par le variant Delta du Covid. Nouveau record de décès annoncé aujourd'hui. Conséquence, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, déconseille aux supporters de se rendre en Russie.
C'est vrai que ça va être compliqué pour les supporters français de se rendre à Saint-Pétersbourg. S'ils s'y rendent directement d'ici, de Bucarest, il va falloir rester en quarantaine une fois rentrés en France, ce qui leur ferait louper la demi à Wembley, si toutefois on s'y qualifie. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas trouvé d'autres solutions, puisque le déplacement des supporters de football ne constitue pas un motif impérieux de déplacement. C'est vrai que la situation sanitaire doit primer aujourd'hui en France. Beaucoup de cas sont avérés maintenant en Russie. Donc oui, il faut faire attention et j'aurais tendance à dire suivons-les, encourageons-les depuis la France et puis attendons qu'ils se qualifient pour la demi, pour voir comment on peut les suivre sur les phases finales.
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, au micro de Jean-François Pérez, en exclusivité pour Europe 1.
Et l'adversaire donc de la France en quart de finale, ce sera soit l'Espagne, soit la Croatie.
Et les deux équipes qui s'affrontent en ce moment à Séville, un peu plus de 6 minutes de jeu, et toujours 0-0.
L'image forte du jour, elle nous est venue de Londres avec cet incendie spectaculaire dans le métro.
Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante sur place. Une explosion a été entendue dans le sud de la capitale vers 15h cet après-midi.
Oui, puis il y a eu cet énorme nuage de fumée qui est monté très haut dans le ciel de la capitale. Impressionnant et visible à plusieurs kilomètres à la ronde, il a causé une grande inquiétude. L'incendie, qui est désormais sous contrôle, a nécessité l'intervention d'une centaine de pompiers et de 15 camions. 3 locaux commerciaux sous la voie ferrée ont pris feu, ainsi que 6 voitures et une cabine téléphonique. Alors l'origine de l'incendie n'est pas encore connue. La police de Londres, qui parle d'un incident majeur, écarte pour l'instant la piste terroriste. Une grande zone autour de la station de métro reste fermée au public. Il y aurait 2 blessés, selon le maire de Londres, Sadiq Khan, qui indique que 2 personnes, dont un policier, sont actuellement soignées pour inhalation de fumée.
Merci Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Oui, ça s'est passé d'Europe 1, Julien Bugier. Dans un instant, restez avec nous. Je voulais simplement ajouter que ça s'est passé dans la station Elephant and Castle, au sud de Londres. Après la pause, le face-à-face aujourd'hui dans le Nord entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, on en parle.
Et puis direction la route du Tour, victoire au sprint du Belge Tim Merlier à Lorient, mais surtout de nouveau des chutes, notamment celle de 2 grands favoris.
A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal avec toujours Rémi Botsaron et on parle donc de cette rencontre. C'est l'image politique du jour, rencontre qui était très attendue aujourd'hui dans le Nord.
Et d'un côté le président de la République, de l'autre l'un de ceux qui rêvent de le remplacer à l'Élysée. Emmanuel Macron était à Douai pour annoncer l'implantation d'une usine sino-japonaise de batteries pour voitures électriques avec 1000 emplois à la clé et il a donc retrouvé sur place Xavier Bertrand, tout juste réélu à la tête de la région Hauts-de-France. Lionel Gougelot, vous avez assisté à l'échange entre les deux hommes.
Oui, avec un premier contact ce matin dans le cadre du traditionnel accueil républicain aux portes de l'usine.
Bonjour, monsieur le président du Conseil régional, vous allez bien ?
Félicitations. Merci. Derrière le masque, on perçoit l'air grave de Xavier Bertrand qui interpelle le président sur l'abstention au régional. Mais Emmanuel Macron ne s'attarde pas dans un débrief du scrutin avec celui qui se mettra sur sa route en 2022. Direction les ateliers où, au milieu des salariés de Renault, il célèbre la réussite de sa politique en matière d'investissements étrangers.
On recrée des emplois industriels dans notre pays parce qu'on réattire attire des investisseurs industriels. Parce qu'on a fait une réforme du droit du travail, parce qu'on a fait une réforme de la fiscalité sur l'investissement industriel, parce qu'on est en train de baisser les impôts de production, parce qu'on est en train de baisser l'impôt sur les sociétés qui sera bien à 25% comme engagé l'année prochaine. Il n'y a pas de mystère, c'est du boulot.
Une sorte de discours de candidat face à un autre candidat, mais autour d'un projet d'intérêt général, la filière automobile électrique, Xavier Bertrand reste en mode consensuel.
Il y aura des différences de projets, propositions qui seront très différentes. Moi, je pense que la priorité des priorités dans notre pays, c'est de redonner confiance aux classes moyennes, aux catégories populaires. Il y aura des différences qui s'exprimeront. Mais pour le reste, il ne faut pas oublier qu'avant les campagnes électorales, il y a l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est plus important que le reste. Et je ne changerai pas ma ligne de conduite.
Tout au long de la visite, Xavier Bertrand restera toutefois en retrait, à distance de la déambulation présidentielle, pour ne pas donner l'impression d'une quelconque complicité ou proximité avec le locataire de l'Élysée.
Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Dans l'affaire Lucas Tronche, cette annonce du procureur de la République de Nîmes cet après-midi, parmi les affaires retrouvées avec des ossements la semaine dernière dans le Gard, les enquêteurs ont découvert un téléphone portable identique à celui de l'adolescent disparu en 2015.
Et puis la chasse à glu est une pratique illégale, c'est le Conseil d'État qui le dit.
Jugement rendu aujourd'hui par la plus haute juridiction administrative, condamnation définitive donc pour cette technique de chasse qui consiste à piéger des oiseaux sur des tiges enduites de colle. C'est une victoire après des années de bataille pour Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux.
C'est un vrai soulagement pour le combat qu'on a engagé, mais avant tout pour les oiseaux, y compris ceux qui sont protégés. Il a fallu 5 ans quand même pour qu'on obtienne satisfaction en allant jusqu'à la Cour européenne de justice, qui a éclairé le Conseil d'État, lequel a considéré que cette démarche était illégale. Nous, on va tirer le fil. Il y a d'autres méthodes de piégeage en France qui sont tout à fait odieuses. Les matoles, qui sont des cages métalliques dans le sud-ouest, le massif central, on écrase avec des pierres plates les oiseaux. Enfin bon, on est quand même au 21e siècle. Et on peut faire des prélèvements autrement que par ces pièges non sélectifs et douloureux. Donc on continuera notre combat et on est heureux de cette victoire qu'on peut qualifier d'historique.
Alain Bougrain-Dubourg interrogé par Diane Berger. C'est une petite révolution très pratique dans l'immense réseau des gares de France. Information que vous révèle Europe 1 aujourd'hui. À partir de l'année prochaine, les toilettes seront gratuites dans ces gares pour les voyageurs. Il suffira d'être muni d'un billet de train.
Et puis la SNCF annonce aussi sur notre antenne d'ailleurs le retour des pianos dans les gares, vous savez, qui permettaient à chacun de s'essayer aux gammes ou de faire de la musique. À partir du 1er juillet, des pianos gratuits, ils avaient été retirés au début de la crise sanitaire.
On prend la direction de la route du Tour de France.
Europe 1 en direct du Tour de France.
Troisième étape aujourd'hui, victoire au sprint du Belge Tim Merlier à Lorient. Mais ce qu'on retient surtout, Marguerite Lefebvre, ce sont toutes ces chutes auxquelles on a encore une fois assisté aujourd'hui.
Oui, et sans lui faire offense, en effet, le nom du vainqueur est presque anecdotique. Tant ce soir, l'événement, ce sont les chutes. D'abord en début de parcours avec l'un des favoris de ce tour, Geraint Thomas, qui est remonté sur son vélo malgré une épaule luxée. Et puis dans le final, cette série de chutes, toutes plus violentes les unes que les autres. Primoz Roglic a fini l'étape l'épaule et la cuisse ensanglantées. Et dans la dernière ligne droite, c'est sans doute l'image la plus impressionnante. Peter Sagan et Caleb Ewan, lancés chacun dans leur sprint, se sont accrochés et sont tombés l'un sur l'autre à plus de 60 km/h. L'Australien Caleb Ewan quitte d'ailleurs le Tour de France. On le sait, les premières étapes du Tour sont toujours très nerveuses. Eh bien, on en a eu la preuve encore aujourd'hui avec du coup pas mal de changements au classement général. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Mathieu Van Der Poel, mais derrière, eh bien, certains grands favoris ont perdu du temps. Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour l'an dernier, perd une trentaine de secondes. Geraint Thomas et Primoz Roglic, eux, ont laissé plus d'une minute dans cette troisième étape.
Merci Marguerite Lefebvre sur la route du Tour de France.
C'était le Point Étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy.
Merci Rémi Botsaron. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel de l'info. La météo avec Anissa Dadi. Le temps reste orageux avec plusieurs vigilances toujours de mise.
Oui, 11 départements, Julien. L'Ain, l'Allier, le Doubs, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Savoie et le territoire de Belfort reste placé en vigilance orange aux orages au moins jusqu'à 22h ce soir. Soyez extrêmement prudents. Dans le Puy-de-Dôme, au sud de Clermont-Ferrand, dans le village de Sauvagnat-Sainte-Marthe, une impressionnante coulée de boue a dévasté pas mal de maisons. Donc très grande prudence parce que les orages sont en train de se déplacer direction les frontières suisses et allemandes. Et sur leur passage, ils apportent de la grêle, du vent fort et beaucoup de pluie. Alors demain, la journée s'annonce encore très orageuse du sud-ouest au nord-est. Il pleut dès le lever du jour. Dans l'après-midi, c'est sur le quart nord-est que les orages vont se concentrer. Et demain soir, sur les Hauts-de-France, nous attendons des pluies très soutenues. On va bien sûr surveiller ça de près et vous tenir au courant. Les températures, comptez 10 à 22 degrés. Demain matin, nous aurons 10 à Rennes, 14 à Paris et 21 à Nice. Dans l'après-midi, 16 à 31 degrés, 16 pour Aurillac, 20 à Lille, Paris et Biarritz, 23 à Strasbourg, 25 à Lyon et 31 degrés la maximale pour Nice.
Vous avez encore fait du karaoké ce week-end ?
Un petit peu, oui.
Hein ? Vous avez la voix qui tremblote.
La clim, toujours.
Bon, faites attention à vous. On vous retrouve tout à l'heure, 18h30, pour un nouveau point sur le temps.
Europe 1, Julien Bugy.
Restez avec nous dans quelques secondes. La France face à son destin avec ce huitième de finale ce soir face à la Suisse. Alors nos Bleus, peuvent-ils aller jusqu'au bout? On en parle avec l'ancien capitaine des Bleus, Marius Trésor. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Et ce soir, notre invité à 18h20, il est ancien capitaine de l'équipe de France, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 82, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs français de l'histoire. Et il se raconte aujourd'hui dans une biographie écrite avec Denis Grandjou, Au-delà de mes rêves, sorti aux éditions City Edition. Bonsoir Marius Trésor.
Bonsoir Monsieur Bugy.
Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. Nous sommes à 2h30 maintenant du coup d'envoi de ces huitièmes de finale de l'Euro. Les Bleus sont clairement favoris, on l'a dit et répété. Comment vous le sentez, vous, ce match face aux Suisses ?
Oh, pour moi, personnellement, il n'y a pas de match facile. J'ai vu jouer les Suisses contre les Turcs et aussi contre l'Italie, malgré la défaite contre l'Italie. Mais c'est une équipe qui a en son sein de très bons joueurs. Donc, va falloir qu'on soit très, 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 très prudent.
Oui. Et à ce stade-là de la compétition, il n'y a pas de match facile.
Ah non, c'est fini ça. De toute façon, des petites nations de football, ça n'existe pratiquement plus. Donc il faut que les équipes considérées comme les favorites soient ou jouent à leur juste niveau pour justement faire pencher la balance.
Oui, c'est vrai Marius Trésor, il y a eu la sortie du Portugal hier, il y a eu la victoire de la République tchèque face aux Pays-Bas qui étaient eux aussi d'une certaine manière favoris. Alexander Frey, l'ancien buteur suisse, a déclaré « S'ils nous prennent ces Français pour des petits Suisses, ils vont être surpris ». De qui faut-il se méfier dans cette équipe ?
Non, mais il y a un garçon comme... Qui joue, que je ne dis pas de bêtises, à Liverpool, je crois que c'est Shaqiri.
Oui.
Il y a Shaqiri qui a marqué deux buts pour envoyer justement son équipe en huitième de finale. Donc, il faut prendre tous ces garçons au sérieux parce qu'ils jouent dans des grands clubs européens.
Oui.
Et à partir de là, quand on les mélange tous, ça peut donner une très très bonne équipe.
Bien. Marius Trésor, il y a quand même un élément qui retient l'attention, c'est le changement de stratégie de la part de Didier Deschamps qui change le schéma de jeu. Hein. Il passe à un schéma défensif à trois défenseurs centraux, Varane, l'anglais Kimpembe. Est-ce que ça prouve qu'il n'a pas encore trouvé la recette magique ?
Non, mais je pense que c'est dû aux blessés qu'on a, hein, parce qu'on en a eu quelques-uns. Et comme Kimpembe est gaucher, l'anglais est gaucher, et c'est notre côté gauche qui a des problèmes. Et Hernandez n'est pas complètement remis, ou à peu près. Lucas Digne aussi est blessé. Donc, si on peut compenser ces absences par ce système-là, je pense que ça peut marcher.
Ouais. C'est une première quand même pour Clément Lenglet dans ce trio défensif. C'est une question que je pose régulièrement à nos consultants et à nos invités, anciens champions comme vous de football. Vous avez été évidemment l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il doit dire ce soir Didier Deschamps dans les vestiaires à ses joueurs ?
Oh, mais je pense que la première chose qu'il ne faut pas oublier quand même, que nous sommes champions, la dernière équipe à être championne du monde. Donc tout le monde s'attend à ce que l'équipe de France passe ce tour. On sait que ça va être difficile, mais on a quand même une statue à défendre. Ouais. Et je pense que les joueurs n'ont pas envie.
Est-ce qu'il y a des mots, Marius Trésor, qui frappent plus les esprits quand on est dans les vestiaires et qu'on s'apprête à rentrer sur le terrain? Quels sont les mots qu'utilisaient les entraîneurs que vous avez pu côtoyer qui vous ont particulièrement engagé à être performant sur le terrain?
Mais surtout, ne pas prendre l'équipe, les adversaires. Il faut justement prendre les adversaires très au sérieux et jouer notre football. Ne pas penser à tout ce que va dire la presse en disant entre cette équipe suisse et l'équipe de France, il y a une différence de niveau. Non, non. Il faut les prendre justement comme il faut, ne pas les laisser respirer. Et à partir de là, normalement, on peut faire valoir notre statut.
Vous avez un doute, vous, sur le trio d'attaquants remarquable de l'équipe de France, Griezmann, Benzema, Mbappé, qui est encore timide avec des résultats quand même assez contrastés?
Bon, moi, je pense que ces garçons, on les connaît. Ils jouent, y en a un qui joue au Paris Saint-Germain, il y en a un qui joue au Real Madrid et l'autre à Barcelone. On sait que ce sont des grandes équipes. Il fallait s'attendre à ce que de suite, ça ne soit pas au point. Mais je dirais que lors du dernier match contre le Portugal, on a vu un Benzema qui a retrouvé le chemin des filets et je pense que ça donne confiance comme c'est pas possible. Donc à partir de là, c'est aux deux autres de se montrer à la hauteur, mais je pense que ce trio peut faire très mal.
Oui. Marius Trezor, ça pèse dans un collectif l'isolement. Vous savez que les joueurs sont dans une bulle sanitaire en raison évidemment de la crise du Covid, isolés de leur famille, coupés du monde. Est-ce que dans un moment comme ça de concentration et de compétition, c'est un atout ou c'est un inconvénient?
Oh, pour moi personnellement, nous en 82, on avait eu la chance quand même d'avoir la famille qui était venue nous voir. On avait passé un très bon moment avec elle. Donc à partir de là, moi, c'est des situations pareilles, je n'en ai pas connu. Donc c'est un peu difficile, mais je pense que les joueurs qui sont quand même des professionnels aguerris doivent pouvoir peser le pour et le contre et donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.
Marius Trezor, je profite évidemment de votre présence pour revenir sur cette compétition en 82. Pour les plus jeunes peut-être qui nous écoutent, quel est votre plus beau souvenir de cette compétition-là? La Coupe du Monde en 82.
En 82, moi personnellement, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est l'un de mes plus mauvais souvenir de footballeur, bon, parce que j'avais 32 ans. Je savais pertinemment que 4 ans après, j'avais très peu de chances de jouer une finale. Et je dirais que ça me reste encore sur le cœur d'être obligé de quitter cette compétition cette année-là en demi-finale.
Bien. Merci pour cette sincérité. Vos pronostics pour ce soir, est-ce que vous sentez un score face à cette équipe de Suisse?
Oh, sentir un score, non, moi tout ce que j'aimerais, c'est que l'équipe de France soit en quart de finale.
Oui, en quart de finale, mais avec quel score, Marius Trezor?
Un petit, allez, 3-1, ce serait très
3-1.
Bien.
3-1, ah, c'est un beau score ça.
Ah, mais il faut des buts,
Vous avez raison. Il faut gagner avec le panache finalement, parce que c'est qui nous manque pour l'instant depuis le début de la compétition.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Karim a retrouvé le chemin des filets et il va pas s'arrêter là.
Oui. Vous voyez qui comme buteur ce soir?
Benzema, je pense qu'il est capable de marquer, et Mbappé qui n'a pas encore donner la pleine mesure de ses moyens, lui aussi. Donc, un petit Benzema, un petit Mbappé et le troisième du trio, Griezmann, ce serait super.
Et allez, hop, le tour est joué. Eh bien, on espère que vous voyez juste, mon cher Marius Trezor. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été ce soir notre invité. Je rappelle la publication de votre livre « Au-delà de mes rêves » avec Denis Grandjou, publié au City Édition, sorti il y a tout juste quelques jours. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
18h26, restez avec nous dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On reviendra évidemment sur tous les enseignements des régionales avec nos débatteurs, et il y en a des enseignements à tirer. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel de l'info avec Rémi Botsaron.
La France passe à la Suisse, c'est ce soir en 8e de finale du championnat d'Europe de football qu'on envoie à 21h à Bucarest. Match à suivre en direct et en intégralité évidemment sur notre antenne. L'autre match du jour a débuté il y a une demi-heure, 8e de finale entre la Croatie et l'Espagne. 1-0 pour la Croatie qui pourrait donc être le prochain adversaire de l'équipe de France dans cet Euro. Sur le Tour de France, victoire au sprint du Belge Tim Merlier aujourd'hui lors de la troisième étape. étape à Lorient. De nombreuses chutes encore aujourd'hui. Les favoris Roglic, Thomas et Pogacar ont perdu du temps. La Russie face au variant Delta du Covid. Nouveau record de décès à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et pourtant, le quart de finale de l'Euro prévu vendredi aura bien lieu à Saint-Pétersbourg. C'est confirmé. Ce quart de finale, ce sera celui des Bleus s'ils se qualifient. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, déconseille aux supporters de faire ce déplacement. Et puis, c'est la fin de plusieurs années de bataille juridique. La chasse à la glu est définitivement jugée illégale. Jugement rendu aujourd'hui par le Conseil d'État. Cette technique de chasse est jugée contraire au droit européen. Les dérogations accordées par l'État sont donc annulées.
Merci mon cher Rémi. On vous retrouve tout à l'heure pour un point complet sur l'info à 19h. La météo Anissa Dadi, situation toujours très agitée ce soir encore.
Oui, nous avons 11 départements placés en vigilance orange aux orages. Ça va du Massif central jusqu'au nord-est. Alors attention, les orages violents sont en train doucement de quitter l'Auvergne. Ils ont été violents sur le Puy-de-Dôme ou un village, hein, Sauvagnas-sur-Sainte-Marthe et sous l'eau actuellement. Alors ces orages se dirigent vers la frontière suisse et allemande. Ils arrivent également sur la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand Est. Attention, l'intensité électrique est très importante avec de la grêle et de forts coups de vent. Sur le Grand Est et les Alpes, la nuit restera orageuse et agitée. Demain, une nouvelle dégradation orageuse va traverser le pays du sud-ouest jusqu'au nord-est. Je vous en reparle tout à l'heure.
Merci Anissa.
À tout à l'heure.
Prenez une petite pastille pour la gorge.
J'y vais.
D'ici 19h. À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix du lundi avec ce soir, mes côtés, Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Sophie Dravinel, grand reporter politique au Figaro. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Julien.
Et le politologue et historien Jean Garrigue qui est à mes côtés également. Bonsoir, en studio. Julien. Bonsoir Jean. Alors on s'intéresse donc ce soir à ce second tour des élections régionales qui confirment la prime aux sortants. Les équilibres restent exactement les mêmes qu'en 2015. Tous les présidents sortants et les présidentes ont été réélus. La dynamique RN n'a pas eu lieu. On va s'y intéresser, ce qui relance évidemment les doutes et le débat sur le bien fondé de la stratégie de banalisation enclenchée par Marine Le Pen, qui a d'ailleurs pris la parole hier soir à l'issue de ces résultats.
Je suis plus que jamais déterminée à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité et son efficacité au bénéfice des Français, parce que la présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques, et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission.
Bien, Jean Garrigue, échec clair et net pour le Rassemblement national.
Oui, puisque dans la mesure où Marine Le Pen avait fait de ces élections régionales un test de mobilisation et de reconquête pour son parti, avec l'espoir sans doute de conquérir la région PACA, avec un candidat qui me semblait avoir le profil nécessaire pour conquérir cette région-là. C'est incontestable qu'il y a un échec, et un échec qui s'est renforcé au second tour.
Oui.
On pouvait se dire que la démobilisation initiale, il y avait quasiment 75% de l'électorat potentiel du RN qui ne s'était pas déterminé au premier tour. On pouvait penser qu'il y avait un sursaut de mobilisation, il comptait là-dessus. Mmh. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.
Ça prouve plusieurs choses, hein, Charles Villeneuve. Un, les sondeurs se sont quand même trompés.
Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
On nous annonçait, une
c'est
vague.
C'est leur principal échec.
Rassemblement national. Et puis, il y a un élément qui n'a pas été souligné, je trouve, depuis hier soir et depuis l'annonce de ces résultats. C'est que par rapport à 2015, le RN perd 106 conseillers régionaux. Ils en avaient 358 en 2015. Ils en ont beaucoup moins aujourd'hui. C'est plus qu'un échec, c'est une déconfiture.
Oui, tout à fait. Non. Le mot est juste, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais vous avez commencé votre entrée en matière, Julien, en disant finalement, les sondages, ils sont où? Ils n'ont rien perçu de tout ce mouvement, strictement rien. Ouais. On ne nous a pas expliqué, tous les sondeurs, les experts qui nous abreuvent d'un tas de statistiques, d'analyses. Tiens, on a un historien politique là devant nous, etc. J'aimerais bien avoir une réponse là-dessus. Comment ce phénomène, qui est quand même un phénomène, je trouve considérable, incroyable, parce que finalement, là, on en revient aux grands féodaux. Il n'y a que les grands féodaux qui ont été élus dans cette affaire. On retrouve les duchés anciens de la monarchie.
C'est le retour de l'ancien monde. On va en parler avec les ténors de la droite et de la gauche.
Pourquoi? Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que dans cette hécatombe, notamment au niveau de l'abstention, il y a quand même un homme et un parti qui a payé très cher, c'est le Rassemblement national et le président de la République.
Oui. Mais sur l'abstention, vous avez raison Charles Villeneuve, petite parenthèse, mais sans faire de café du commerce, ça discrédite la parole publique, ça discrédite les commentateurs et ça discrédite aussi les sondeurs. Quand on nous annonce une vague Rassemblement National et qu'elle n'a pas lieu, avec une abstention record, ça discrédite l'ensemble de des observateurs d'une certaine manière,
oui.
Sophie de Ravinel.
Oui, ça peut, et sans doute c'est le cas. Personne ne va sortir vraiment grandi dans toutes ces personnels-là chargés de préparer nos élections. Je pense que la difficulté pour les sondeurs, mais je parle sous votre contrôle Jean Garrigue, c'est aussi cette abstention, le niveau justement de l'abstention.
Ne parlez sous son contrôle.
Je dis, c'est le fait que l'abstention était telle, elle était annoncée, et ça, on ne s'est pas trompé là-dessus. Il y a une chose sur laquelle on ne s'est pas trompé, c'est que beaucoup ont dit on sera à un niveau d'abstention peut-être le plus important de toutes les échéances de la 5e République.
Les sondeurs voyaient une mobilisation des électeurs RN beaucoup plus importante.
Oui, mais pas tous. Moi, je discutais par exemple avec Pierre Jouvet, qui était en charge des élections au PS, et lui me disait, sur la base de ce qu'il sentait sur le terrain, les électeurs du RN vont eux aussi se démobiliser. Il y a, je pense, là.
J'ai un petit élément d'explication sur ce décalage. C'est que les sondeurs ont choisi comme échantillon des échantillons, je veux dire, les plus représentatifs de la société française. Or, ce qui se passe dans ces élections, c'est qu'il y a une césure très nette entre les sociologies électorales. Je veux dire par là que ceux qui ne se sont pas mobilisés, les électorats populaires, en général, en très grande majorité, qui précisément, a priori, se tournent vers le Rassemblement national. Alors, et ça, ça fait un vrai décalage pour les sondeurs.
Parenthèse fermée sur les sondages. Est-ce que ça va forcer le Rassemblement national à revoir sa stratégie, Charles Villeneuve ou Sophie de Ravinel? Charles, allez-y.
Pour moi, je ne pense pas. Trop tard.
Parce qu'il y a des dissensions au sein du parti. Je voyais l'eurodéputé Nicolas Bay qui dit, il y a un congrès samedi et dimanche à Perpignan, qui dit que ce sera l'occasion enfin d'avoir un débat de fond sur la stratégie et les raisons de la démobilisation.
Oui, certainement. De toute façon, il peut toujours y avoir un débat. Mais enfin, l'élection présidentielle, c'est une personnalité emblématique, normalement. Et la plus emblématique reste quand même Marine Le Pen.
Est-ce qu'elle s'est trop institutionnalisée? Elle est pour l'euro, pour le remboursement de la dette. Elle ne déteste plus les immigrés, elle l'a dit en ces termes.
Vous me coupez la chic là-dessus.
L'herbe sous le pied.
Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un électorat anti-système. Quand vous égratignez complètement, si vous voulez s'accaparer comme anti-système, comme les mesures anti-système, les propositions anti-système, bien évidemment, vous videz de sa substance, si vous voulez, le sac de cet anti-système. Et donc, partant de là, mais moi, je trouve qu'il y a un phénomène beaucoup plus profond et qui n'est pas tellement à l'ordre du jour de l'explication. Je crois que le non-cumul des mandats, je crois que la dévalorisation du Parlement ont amené petit à petit les gens à prendre conscience que finalement, tout se passe à l'exécutif au niveau de l'élection présidentielle. Et dès lors, si vous voulez,
ça ne présage pas une démobilisation des électeurs RN pour la présidentielle.
Non,
en tout cas,
sur une élection locale qui reste locale, régionale, ça démobilise.
Alors, il y a quand même un élément qui peut peser dans les 10 mois à venir jusqu'à l'élection de 2022, Sophie de Ravinel, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de petits barons au sein du Rassemblement National qui disent on s'est trompé de ligne. Regardez Bolsonaro au Brésil, regardez Trump aux États-Unis. Si on veut l'emporter, il faut être transgressif et il faut assumer des positions parfois extrémistes.
Oui, sans doute qu'il va y en avoir. Déjà, on entend quelques noms, on voit quelques affiches. Mais de fait, je crois qu'effectivement, on parlait du congrès du RN qui a lieu ce dimanche. D'ailleurs, Marine Le Pen reste silencieuse jusqu'à son discours de clôture dimanche. Il n'y aura pas de prise de parole médiatique. Le couvercle est mis sur cette marmite-là, en tout cas. Et ça n'est sans doute pas du côté du RN officiel. En tout cas, dans les mois, dans les semaines qui viennent, que les choses vont pouvoir bouger. Après, est-ce qu'elle va être bousculée? Est-ce que les sondages vont tomber? Est-ce que Xavier Bertrand va prendre du poids et qu'effectivement, là, ceux du RN ou l'électorat potentiel va commencer à s'agiter? En plus, si la rentrée sociale est très agitée et qu'il y a des renouveaux de mouvements durs sur le terrain, et c'est possible.
Alors, justement, on va en parler de Xavier Bertrand dans quelques secondes. 18h39, vous restez avec nous. Est-ce l'autoroute maintenant pour le président réélu des Hauts-de-France en vue de 2022? On en parle après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h41, la suite des grandes voix du lundi avec toujours Charles Villeneuve, Sophie Dravinel, grand reporter politique au Figaro et l'historien Jean Garrigue. Alors les régionales suite, et cette fois on parle de la bataille de la droite, bel et bien lancée, les trois potentiels candidats LR sortent en tête, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et bien sûr Xavier Bertrand, confortablement réélu à la tête des Hauts-de-France, qu'Emmanuel Macron a d'ailleurs rencontré aujourd'hui lors d'un déplacement à Douai. Écoutez ce court échange entre les deux hommes.
Félicitations. Et heureux de nous retrouver ici.
C'est important pour nous réussir à faire reculer le Le Pen.
Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive.
Et l'abstention. Hein, l'abstention, et par contre.
Elle dit beaucoup de choses. On va tous en tirer les conséquences.
Bien, ça y est, cette fois, le match est lancé. Xavier Bertrand ne s'y est pas trompé. D'ailleurs, ça fait deux fois qu'il fait le coup. Hein. Sitôt les résultats prononcés, à 20h02, j'ai regardé ma montre hier soir, il a pris la parole le premier pour s'ériger comme rempart contre le Rassemblement National et comme le principal opposant au président, qui sera sans doute candidat Emmanuel Macron. Charles Villeneuve, est-ce qu'il est l'évidence de la droite républicaine ?
Non, sincèrement, enfin, moi, je ne m'aventurerai pas à dire ça. Il y a un effet de dynamique visible à l'œil, c'est vrai, pour une candidature à la présidentielle. C'est vrai que tous les trois ont réussi leur examen de passage avec un succès certain.
Oui.
Mais je crois que la décantation de ce succès demande une certaine mesure pour en tirer des conséquences.
Il y a un élément amusant, c'est que...
Ils ont pris trois points chacun, tous.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, selon les bruits de couloir, Nicolas Sarkozy, donc Xavier Bertrand, continue de consulter régulièrement l'ancien président, lui avait dit, si tu n'es pas à 18 ou 20% ou 21% d'ici à l'été, c'est fichu, tu ne peux pas y aller.
Mais il est à 18.
Il est à 18.
Il est à 18.
Il est à 18.
Mais vous avez remarqué, Julien, certainement, l'œil exercé que vous avez...
Je vous remercie du compliment.
Ils ont tous pris trois points.
Oui.
Pécresse, Bertrand,
c'est vrai.
Et Wauquiez.
Mais dans
tous
des volumes,
trois points. Simplement, Bertrand était plus haut.
Voilà. Et Valérie Pécresse entre 12 et 13 et Laurent Wauquiez à 13%. D'ailleurs, ceci dit en passant, Laurent Wauquiez, qui avait mal fini à la tête de l'UMP, est quand même crédité de 13%. C'est très honorable.
Oui. Mais je pense quand même que dans la course au leadership de la droite, Xavier Bertrand parlait son positionnement et parlait deux prises de position au lendemain du premier et du second tour, a pris une longueur d'avance par rapport aux autres, parce que il a su incarner cette droite sociale proche du peuple, qui est humaniste, qui lui offre un espace politique. Il a la capacité éventuelle de séduire une partie de l'électorat de droite qui peut être pour l'instant capté par le macronisme.
Oui.
Il a aussi la capacité de séduire un électorat populaire, et c'est le cas dans les Hauts-de-France, qui pouvait se déterminer pour Marine Le Pen. Et il a aussi cette capacité à séduire le fonds de commerce de l'électorat de droite, libéral, conservateur. Donc je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, mais évidemment, on parlait d'autoroute. Sur cette autoroute, il y a quand même au moins deux obstacles qui sont Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Et il y a d'autres obstacles qui sont le parti des Républicains, puisqu'il s'en est extrait. Mais
il a dit que quoi qu'il arrive, s'il gagnait la région et qu'il était toujours président, il irait à la présidentielle, quelle qu'en soit l'issue d'une éventuelle primaire.
Il ne peut pas y aller seul. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse, comme Laurent Wauquiez, l'ont dit aujourd'hui, sont montés au créneau, ou dès hier soir, Valérie Pécresse sur BFM TV, en disant « la droite n'a pas de candidat naturel, il n'y a pas d'homme providentiel ». Bon, Wauquiez, son entourage, disant qu'il avait lui-même une indiscutable légitimité, et l'un et l'autre disant il ne pouvait pas y aller seul.
Oui.
Et donc, il va falloir trouver ce fameux départage.
Oui, pour lui, il n'y a aucun doute, c'est lui le chef. Hein.
Il l'a
dit ce matin dans une interview, il a dit « J'embarque avec moi Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. »
Il l'a dit aux Échos, on avait
la meilleure équipe possible.
Non, mais pour confirmer ce que disait l'historien ici présent, c'est que c'est vrai qu'il a quand même ramené sur une terre de gauche des gens à droite, votant à droite alors qu'ils ne votaient plus à droite. Ce sont les pêcheurs, les agriculteurs, les chasseurs et aussi un électorat de gauche.
Oui.
Il y a certains bureaux comme à Lens, par exemple, ville que je connais bien et que les gens d'Europe 1 connaissent bien pour avoir été parrain de leur équipe de foot pendant des années.
Oui.
C'est vrai. Eh bien, ils ont voté en majorité Bertrand. C'est assez étonnant.
Vous savez ce que racontent certains de ses proches. Il était ministre du Travail, avec une image parfois écornée, un destin abîmé. On lui a conseillé « va prendre la région si tu arrives à gagner contre le Rassemblement National ». À l'époque, c'était encore le Front National, c'est me ça. Semble-t-il.
Oui.
Tu pourras revenir et avoir peut-être un destin national. Nous y sommes, Xavier Bertrand, peut-être futur candidat à l'élection présidentielle en 2022. Nouvelle pause, 18h46, on continue de parler de ces élections régionales. On parlera de ce qui se passe à gauche, là aussi c'est intéressant. Les barons et baronnes d'ailleurs, il n'y a pas que des hommes, ont réussi à sauver leur présidence. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buffier.
18h49, la suite du débat des grandes voix. On continue donc à parler des enseignements de ces élections régionales, de ce second tour, avec, je le disais, la revanche aussi des ténors de la gauche. Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, François Bonneau en Centre-Val de Loire et Carole Delga qui a donc fait le meilleur score de l'élection en Occitanie avec plus de 57% des voix, 57,7% précisément, sans alliance surtout avec la France Insoumise. Elle avait d'ailleurs déclaré que son projet n'était pas compatible avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et de ce point de vue-là, on voit apparaître une fracture à l'image de cet échange hier entre Najat Vallaud-Belkacem et l'eurodéputée de la France Insoumise, Manon Aubry. C'était sur un plateau de télévision. Écoutez.
Jean-Luc Mélenchon n'a absolument pas envie de contribuer à ce grand bloc que j'appelle de mes voeux. Donc j'en prends acte. Voilà. Et nous devons construire ce grand bloc parce que c'est ainsi que nous gagnerons des élections. Aujourd'hui, on a un homme qui incarne des valeurs claires, un projet clair et le socle le plus solide, tout sondage confondu à gauche, et on se dit, on va s'en priver. Et on va se priver, y compris de la dynamique qu'il peut créer dans des classes populaires qui aujourd'hui boudent les urnes et ne décident de plus aller au vote. Et à la place, on va faire alliance avec qui ?
Voilà, je voulais vous faire réagir d'abord à ça. C'est très intéressant, parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon pèse entre 12 et 15% aujourd'hui dans une hypothétique candidature à l'élection présidentielle. Et il y a un problème d'alliance. Il ne veut pas s'allier avec la gauche traditionnelle, en l'occurrence les socialistes et parfois même les écologistes. Et inversement, et on voit, l'exemple de Carole Delga est un bon exemple, qu'au niveau régional, en tout cas, c'est-à-dire au niveau local, on peut gagner une élection massivement sans s'allier avec la France insoumise. Quelle est la bonne stratégie à adopter, Charles Villeneuve ?
Moi, je pense que Carole Delga apporte une nouvelle qui n'est pas très bonne pour le président de la République. Parce que finalement, elle peut piquer des voix qui se sont ralliées à La République En Marche, en nombre, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Le président de la République a été élu sur un matelas confortable de voix de gauche qui s'était ralliée, qui avait même intégré La République En Marche. Et que Carole Delga, qui a augmenté le potentiel de voix de gauche, c'est la seule, je crois, des grands féodales, si j'ose dire, qui ont été élus, c'est la seule qui a fait cette démonstration.
Oui.
Et si ça se confirme et si ça s'étend, et c'est appelé, à mon avis, à s'étendre, parce qu'elle avait un programme, c'est une femme de terrain, c'est une accrocheuse, c'est une femme qui émet beaucoup de sympathie dans le contact humain et qui s'occupe des gens.
Oui.
Eh bien, je pense qu'elle peut générer justement ce début d'hémorragie des voix de gauche qui avaient rallié la République
En Marche. Elle a d'ailleurs été secrétaire d'État d'un gouvernement Valls, François Hollande, a été secrétaire d'État, je crois, au commerce. Jean Garrigue, parce que ce que vous dites est fort intéressant, Charles Villeneuve, mais qui peut être la Carole Delga de 2022 pour porter la candidature des socialistes ? C'est ça la question.
Ça, c'est quand même un problème. Anne
Hidalgo.
Oui, mais on voit bien qu'Anne Hidalgo, pour l'instant, elle est créditée de 6-7% au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, manifestement...
Méfiez-vous des dynamiques.
Bien sûr.
Et puis, sa candidature, pour l'instant, ne porte pas beaucoup au-delà du périphérique.
Non,
quand même.
Non, mais c'est vrai qu'il faut se méfier...
Non, mais le périphérique, parfois, se traverse.
Je suis d'accord qu'il faut se méfier des dynamiques, mais il y a un problème d'incarnation à gauche. Et ce problème d'incarnation,
c'est vrai.
Il vient en grande partie de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait pu faire figure, justement, d'incarnation par ses talents de tribun, d'orateur, par son histoire socialiste, par ses références.
Ça, c'est votre théorie. 2017, il a raté son tour. Vous dites même qu'il aurait pu être le François Mitterrand de 2017.
Au moins, en tout cas, il aurait pu effectivement être au second tour. D'ailleurs, c'est toute son histoire.
Oui.
C'est le regret de ne pas avoir été au second tour, mais qu'il a poussé aujourd'hui sur une trajectoire qui est à peu près l'inverse de ce dont parle Manon Ombry, qui nous dit une clarté des valeurs.
C'est l'inverse de toutes les stratégies mitterrandiennes.
Oui, inverse des stratégies mitterrandiennes. Mais Manon Ombry nous dit clarté des valeurs, clarté des repères. C'est le contraire. Il a totalement brouillé les cartes. Il s'est mis quand même sur un certain nombre de positions un peu à l'écart de ce que représente la gauche humaniste républicaine. Et aujourd'hui, il en paie les pots cassés. Et on voit très bien que ce qu'avait dit Manuel Valls sur les gauches irréconciliables, en tout cas, devrait fonctionner vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon.
Alors, au-delà de la perspective de 2022, Sophie Dravinel, comment vous expliquez cet incroyable succès des présidents et des présidentes sortantes, que ce soit d'ailleurs à droite ou à gauche? Alain Rousset, cinquième mandat. Carole Delga, deuxième mandat. Idem pour Laurent Wauquiez, pour Valérie Pécresse, pour Xavier Bertrand. Les équilibres politiques, quand vous regardez la carte, entre 2015, élection précédente des régionales, et l'élection d'hier, les couleurs sont les mêmes.
Oui, et ben à mon avis, ça traduit simplement le fait, d'abord, c'est le fruit de l'abstention, c'est-à-dire que ceux qui votent vont plutôt massivement soutenir les sortants. C'est aussi l'expression d'une confiance dans ces représentants de l'État, contrairement à ce qu'on disait peut-être tout à l'heure sur l'exécutif qui est a priori le seul à la manœuvre ou considéré comme tel. Il y a aussi chez les Français, et ça avait été confirmé par une étude du CVPOF, une grande confiance accordée, plus encore même qu'aux élus municipaux, aux conseillers régionaux et aux conseillers départementaux qui s'occupent, rappelons-le, des questions sociales, et les conseillers régionaux globalement, de toutes les questions de transport, de lycée, qui sont des vraies questions quotidiennes et sur lesquelles les Français voient l'État travaillait pour eux, enfin les élus, pardon, travaillaient pour eux. Mais il y a aussi, et c'est très intéressant, du coup, puisque pour revenir moi à 2022, ce maintien des partis traditionnels, contrairement à ce qu'on avait dit, on a suffisamment parlé de l'échec d'Emmanuel Macron, de l'échec du RN, mais le maintien du Parti socialiste est une réalité dans les régions, comme évidemment celui de la droite républicaine. Et ça veut dire que le jeu n'est pas du tout fait pour la suite, et en particulier, effectivement, pour ce Parti socialiste social-démocrate qui n'est pas insoumis.
Bien, il nous reste 3 secondes et demie, Charles Villeneuve, ce soir. France-Suisse.
Alors, ça ne me posait pas la question à moi.
Mais sincèrement, je pense que là, l'équipe de France doit montrer ce qu'elle est réellement, et notamment ce potentiel. Je pense que c'est le potentiel le plus fort et le plus puissant de cet euro, et ce soir, c'est le rendez-vous.
Et vous dites combien ?
3-0.
3-0. Ouf. Optimisme. Jean Garrigue.
Allez, il faut que Kylian Mbappé ouvre son compteur but. moi, je vais être plus prudent. Je vais dire 2-1 parce qu'on sait que ces matchs sont toujours difficiles contre des équipes jugées moins fortes.
Et Sophie Dravinel, elle nous dit...
Et moi, je dis 2-0.
2-0, fantastique. Allez. Moi aussi, 2-0. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du lundi. Réponse donc demain. Allez les Bleus.
Europe 1. Julien Bugier.
18h56, restez avec nous dans quelques secondes, le rappel de l'info et puis le club des idées, on parlera des retraites tiens ce soir avant le match c'est pas le meilleur des sujets, mais vous verrez, il y a plein de choses à dire. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct avec le journal dans un instant. 19h15, carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Et puis à 19h20, grand débat ce soir sur nos retraites. Travailler plus jusqu'à 64 ans. Le gouvernement hésiterait à passer en force, mais la question est sur la table. On en parlera donc ce soir très largement avec nos invités. D'abord le journal avec Rémi Botsaron. 19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.